L'alimentation, c'est un sujet qui me passionne à plein de niveaux. Alors déjà, en tant qu'ancienne agronome, c'était mon cœur de métier. Ensuite, en tant que femme, c'est une source de plaisir, d'envie, et en même temps de culpabilité et de peur. En tant que personne grosse, c'est un sujet de douleur, car c'est encore et toujours associé à un supposé excès, à un supposé manque de maîtrise et à de supposées mauvaises habitudes alimentaires de ma part, qui expliquerait aux yeux des autres pourquoi j'ai le corps que j'ai. Et enfin et surtout, en tant que gourmande, quelqu'un qui aime manger, quelqu'un qui aime manger des choses qui stimulent tous mes sens, quelqu'un qui aime les moments passés à la cuisine à faire de la magie entre deux coups de fouet et trois coups de cuillère, en tant que personne qui aime partager ses repas, qui aime s'échanger des recettes et se faire découvrir de bonnes adresses, j'ai envie de parler de cet art bien particulier qu'est la cuisine, une pratique qui prend ses racines dans la réponse finalement à un besoin de base, qui est celui de se nourrir, et que nous, humains, avons décidé d'ériger au statut de pratique artistique. Mais qu'est-ce qui différencie la cuisine artistique des autres? Et notamment, qu'est-ce qui différencie la cuisine artistique de la cuisine domestique? Sur quel postulat se fonde la professionnalisation de la cuisine? Et à qui profitent ces postulats? Pour répondre à ces interrogations, j'ai invité Lorraine Malka, autrice du livre Mangeuse, qui s'intéresse aux rapports divers et variés, mais jamais vraiment apaisés, qu'entretiennent les femmes avec la nourriture et l'alimentation. Lorraine et moi, on s'est rencontrées lors d'un atelier autour de son livre, du coup Mangeuse, organisé par la collective Lieu de ressources et de soins pour les femmes à Arles, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Lors de cet atelier, nous nous sommes réunis pour discuter de nos rapports à l'alimentation, en préparant ensemble une grande soupe. Suite à cet atelier, je l'ai invitée sur Chimère pour décortiquer ensemble ce qui se cache derrière la cuisine professionnelle, une cuisine qu'on va juger artistique, et quels mécanismes permettent de différencier des élites qui savent confectionner et déguster cette cuisine gastronomique par rapport aux autres cuisiniers, cuisinières et consommatrices. Je ne vous en spoile pas plus et je vous laisse découvrir notre échange avec Lorraine juste après le générique. Créer, imaginer, inventer, c'est génial, mais ça va avec plein de questions. Moi, c'est Cyrine et je vous accueille dans Chimère, le podcast où on parle création, créativité, art, artisanat, sans réponse toute faite, sans mépris et sans chichi. Merci d'être là et bienvenue dans l'épisode du jour. Comme d'habitude, du coup, je commence l'épisode par t'accueillir et te dire merci d'être venue dans cet épisode aujourd'hui pour nous parler des femmes et de la cuisine.
Merci.
Du coup, c'est vrai que nous, on s'est rencontrés dans un contexte un peu particulier. On a fait de la soupe ensemble la première fois qu'on s'est vus. Donc, du coup, c'était dans le cadre d'un atelier organisé par la collective, une association dont j'ai déjà un peu parlé ici, à l'occasion du coup de la sortie de ton livre « Mangeuse ». Et à cette occasion-là, on s'est rencontrés pour un atelier, on a discuté de notre rapport à l'alimentation en faisant de la soupe, du coup. Et du coup, pour introduire cet épisode, j'aurais bien aimé que tu te présentes un petit peu rapidement et que tu nous parles de ton livre aussi et de ce qui t'a amené à l'écrire.
Ok, merci Cyrine. Donc je me présente, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste notamment pour le magazine Cosette et pour Livre Hebdo où je fais un podcast littéraire. Je suis principalement l'actualité littéraire. J'écris aussi des chroniques et des textes dans le domaine audiovisuel pour des émissions, pour des séries, parfois pour des séries de fiction. Je travaille notamment pour une émission qui s'appelle Les Épicurieux, qui est présentée par Jamy Gourmaud, où je fais toujours des choses en lien avec la littérature, les livres, la langue française. Et je viens de publier un livre qui s'appelle « Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès ». C'est un essai qui est paru chez Pérégrine, la maison d'édition Pérégrine, dans la collection Genre, et pour lequel j'ai mené une enquête dans notre époque, où j'ai lancé un appel à témoignages auprès de femmes et de jeunes femmes de différents âges et de différents milieux sociaux sur leur rapport à la nourriture, à la fois leur rapport joyeux, convivial, mais aussi plus tourmenté, plus douloureux. Et ensuite, j'ai mené une enquête historique, toujours dans ce livre, où je suis remontée vraiment très loin dans l'histoire, dans l'Antiquité, jusqu'à nos jours, pour essayer de comprendre comment c'était fabriqué historiquement et socialement et culturellement, ce que j'observe comme étant une culpabilité très fréquente des femmes vis-à-vis de leur rapport à la nourriture.
Et du coup, moi, je me demandais pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler spécifiquement sur le rapport des femmes à l'alimentation et à la nourriture et pas voir plus largement juste le rapport qu'on peut avoir homme ou femme ou autre avec ce sujet-là?
Parce que justement, c'était tout mon angle, c'était toute l'originalité de mon approche, c'est que, et puis c'était ce qui m'intéressait. Il y a eu énormément de travaux, il y a eu une littérature gigantesque autour du rapport de l'être humain, étant entendu que ce qu'on appelle l'être humain, c'est toujours l'homme riche. Voilà, et on s'en rend compte de plus en plus qu'on a ce biais culturel historique très fréquent de considérer l'être humain, de réduire l'être humain en fait, à la personne qui écrit, qui est très souvent qui est très souvent au masculin. Et donc, on a une littérature gigantesque. Je parle vraiment en sciences sociales, en histoire, en histoire judéo-chrétienne, de la théologie, vraiment sur tous les plans, en anthropologie, du rapport, de l'homme à la nourriture, et on a très peu de choses qui s'intéressent au rapport des femmes à la nourriture. Or, selon moi, il y a une histoire à raconter, inexplorée jusqu'à présent, des femmes dans leur rapport à la nourriture et notamment au péché de gourmandise. On sait que la première femme dans la Bible, mais aussi dans la mythologie grecque, donc le pendant de Ève, qui s'appelle Pandore, dans les deux récits mythologiques, on a cette figure féminine qui pêche notamment par gourmandise, mais la gourmandise étant à la fois un péché de gourmandise, un péché d'orgueil, un péché de curiosité, puisque quand on sait, par exemple, quand on regarde un tout petit enfant, que l'enfant met son pied dans la bouche, met tous les objets qu'il trouve dans la bouche, et c'est pour connaître le monde, en fait. Donc, c'est de la curiosité. Et donc, on attribue ça dans la culture judéo-chrétienne à un péché d'excès de curiosité, puisque Ève a voulu connaître l'arbre de la connaissance. Donc, c'est vraiment un péché de curiosité, mais c'est aussi un péché de gourmandise. Et donc, on a ce lien vraiment originel, très, très fort, comme si les femmes étaient plus vulnérables face au péché de gourmandise et qui, en fait, traverse l'histoire à chaque fois en prenant différentes formes. Et donc, c'est vraiment cette histoire-là, qui est, selon moi, inexplorée et que j'ai voulu raconter et retracer.
Oui, c'est vrai que j'avais jamais pensé à cet aspect historique-là, parce que je peux voir, moi, dans mon quotidien de femme et en discutant avec d'autres femmes, qu'il y a un rapport qui est toujours un peu compliqué à la nourriture sous divers angles. D'ailleurs, c'est pas toujours là, ça se manifeste pas toujours de la même façon, mais c'est un rapport qui est toujours un peu compliqué. Mais c'est vrai que je voyais pas, enfin, j'avais pas forcément fait le lien non plus avec tout, enfin, des récits avec lesquels on est bercé depuis l'enfance au final. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Et je me disais aussi, du coup, tu as fait ce travail-là de recherche assez extensive, j'ai l'impression, donc à la fois sur des comptes rendus aussi d'entretien, enfin des rapports d'entretien que tu as pu avoir avec des personnes, des femmes autour de l'alimentation, mais aussi une recherche plus historique. Est-ce que tu dirais que les femmes ont un rapport plus compliqué à l'alimentation et à la cuisine que les hommes, par exemple?
Alors, c'est à la fois plus compliqué, c'est vrai, je pense. Après, j'aime pas trop comparer parce que les hommes, on sait que, enfin, moi, dans ma vision du féminisme, c'est plus un combat contre des valeurs qu'on qualifie souvent de patriarcales, mais qui peuvent aussi enfermer les hommes à leur échelle, à leur manière. On sait que les hommes sont moins quand même victimes, évidemment, sujettes, disons, à toutes les injonctions. Et voilà, et on des regards moins objectivants, notamment sur leur corps, mais même sur leurs mœurs, sur leurs habitudes, leurs constructions culturelles et sociales et ont plus de liberté. Mais on sait quand même qu'ils sont aussi enfermés dans cette culture-là à plein d'égards et parfois de façon très douloureuse et réductrice. Et en fait, je pense qu'on ne mesure pas bien les effets que ça peut avoir. Et je suppose que bah, notamment, l'une des choses qu'on sait dire, c'est que les hommes s'expriment beaucoup moins sur ce qu'ils peuvent ressentir et sur leur capacité à déconstruire en fait, cette construction de la virilité qui parfois ne leur convient pas. Mais la logique de déconstruction est quand même beaucoup moins enclenchée que pour les femmes, grâce notamment à tous nos combats féministes très anciens. Et donc, j'aime pas trop comparer les hommes et les femmes parce que, évidemment, les hommes déclarent moins les problématiques qu'ils peuvent vivre vis-à-vis de l'alimentation, qui doivent probablement exister, qui sont, à mon avis, moins anciennes, moins historiquement construites et moins. Mais ce n'est qu'une opinion. Et là, là-dessus, je n'ai pas enquêté. Donc, je n'ai pas d'opinion. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les femmes développent très, très régulièrement un rapport non seulement compliqué, c'est vrai, souvent éprouvant. Et j'utilise le terme de tourmenté parce que ça peut être des tourments qui peuvent être vraiment, qui peuvent envahir constamment le champ psychique des femmes, hein. C'est ce qu'on repère notamment, non pas seulement que chez les femmes qui sont sujettes aux troubles des conduites alimentaires, mais de façon plus large, en fait, chez de très nombreuses femmes qui sont très préoccupées par la façon dont elles vont manger, où elles vont manger, ce qu'elles vont manger, comment elles vont le compenser, comment elles vont l'anticiper. Et ça peut être très isolant socialement et ça peut causer aussi des troubles physiques, hein, très, très fréquents. Donc oui, un rapport compliqué, mais aussi un rapport intense, au sens un rapport intense, c'est-à-dire une préoccupation qui peut aussi être très joyeuse, très belle, très tournée vers l'autre, qui consiste aussi à toute cette charge mentale qui est un mélange de très belles choses et de choses très, très éprouvantes et un peu inavouables. De qu'est-ce que je vais préparer à manger, qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais, quand est-ce que je vais le faire, parce que on sait que plus les siècles avancent, plus les femmes ont des charges, travaillent, cherchent à acquérir, à atteindre l'égalité, et en revanche sur ce domaine-là, l'égalité n'est pas du tout atteinte et la répartition des charges de travail et des charges mentales notamment sur l'activité de la préparation du repas, notamment, et de l'achat, en fait, de tout ce qui permet de préparer le repas, parce qu'il ne s'agit pas que de le préparer, revient très, très souvent aux femmes. Et les femmes continuent d'être assignées aux tâches domestiques et notamment à la cuisine. Donc oui, un rapport compliqué, mais aussi un rapport intense et qui peut aussi comporter des aspects que je trouve assez beaux, qui comportent aussi des éléments de sororité, de transmission, de partage, de complicité entre mère-fille, entre copines. Donc c'est assez complexe, mais je trouve qu'il y a vraiment la cuisine et l'alimentation, selon moi, vraiment cristallisent à la fois quelque chose que je trouve très très beau dans cette complicité, dans cette danse sororale des femmes, mais aussi de douloureux et d'inavouable, un vrai tabou.
Oui, je suis assez d'accord qu'il y a cette double, je sais pas comment dire, ces deux réalités qui coexistent, qui arrivent à coexister en même temps, ce rapport très très beau à l'alimentation, au fait même de cuisiner, comme tu dis, il y a vraiment un truc avec la pièce de la cuisine dans une maison, c'est aussi un endroit où il se passe beaucoup de choses au final, parce que c'est un endroit qui souvent se construit, enfin s'habite un petit peu en non-mixité, parce que comme tu dis, ça reste une tâche qui est souvent réservée aux femmes. Et donc voilà. Du coup, il y a ce truc de, c'est un espace en non-mixité qui se crée un peu naturellement et où se passent beaucoup de choses, où se racontent beaucoup de choses, où se transmettent beaucoup de choses. En même temps, comme tu dis, il y a aussi ce rapport qui peut être très tourmenté à la nourriture Et c'est vrai que c'est un peu du coup étrange comme endroit parce que c'est un endroit à la fois très safe entre guillemets où on est entre femmes et où on peut discuter de plein de choses où d'ailleurs des femmes qui par exemple ne parlent pas forcément beaucoup à l'extérieur ou n'ont pas beaucoup de place dans le monde extérieur pour exister, bah là prennent toute leur place. Et en
Ouais.
même temps, c'est un lieu des fois un peu de douleur où on se rappelle que si on mange, on grossit, que si on mange ci ou ça, c'est pas bon pour la santé, que bah ça, en fait, c'est un peu de la gourmandise. Et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un peu
C'est
ce double
exactement
truc.
ça. Et puis, ouais, et c'est encore plus complexe que ça parce que ce lieu de douleur, il est, je pense, et au début, dans l'écriture de mon essai, je trouvais un peu difficile d'articuler les deux ensemble. Et puis, on me déconseillait beaucoup de le faire quand j'en discutais autour de moi. Or, pour moi, tout est lié et c'est important d'articuler tout ça ensemble. C'est à la fois une. Bah, on peut vraiment en parler de douleur, hein. À la fois dans cette, comme tu dis, à la fois la culpabilisation, enfin vraiment d'être tout le temps en train de se demander, est-ce que là, si je mange ça, ça va pas me faire grossir? Est-ce que ça va pas me faire mal au ventre? Ça aussi, c'est une question qui est très féminine. Est-ce que ça va pas me peser sur l'estomac? Est-ce que ça va pas me fatiguer? Enfin, l'effet de la nourriture sur nos humeurs, sur notre apparence corporelle, sur notre état d'esprit, sur notre fatigue, sur nos maux de ventre, sur tout ça, c'est vraiment des questions qui sont proprement, enfin qui sont vraiment plus féroces chez les femmes pour plein de raisons. Et par ailleurs, il y a aussi ce côté, la tâche répétitive de faire à manger quand on quand on ne vit pas seul, qu'on doit préparer à manger à toute la maison ou ne serait-ce qu'à une personne plusieurs fois par jour ou ne serait-ce que plusieurs fois par semaine, et que ça n'est plus un plaisir et que ça devient une corvée répétitive sans reconnaissance, hein, enfin, et sans qui ne laisse pas de traces, comme le dit bien Simone de Beauvoir. C'est vraiment une œuvre qui s'efface à mesure qu'elle se crée. Enfin, c'est voilà. Et il y a quelque chose là-dedans qui est douloureux aussi, dans cette répétition des tâches. Donc, en fait, je pense que dans ces deux aspects-là, il y a quelque chose qui est douloureux et qui, contrairement, et c'est là vraiment que je peux comparer les hommes et les femmes, et c'est l'objet de mon livre. C'est que chez les hommes, il y a une gratification dans les deux, dans les deux problématiques que je viens de décrire. Une gratification par la cuisine professionnelle qui est réservée aux hommes pendant très très longtemps et qui encore aujourd'hui est difficile à acquérir pour les femmes. Une gratification professionnelle dans la gastronomie, dans le fait de devenir un chef cuisinier professionnel. Qui reçoit des récompenses ou pas, qui est médiatisé ou pas, mais qui en tout cas accède à des titres prestigieux dans la cuisine professionnelle, ce qui est vraiment beaucoup moins fréquent pour les femmes, d'une part. Et c'est la même chose pour ce qui est de la façon de s'alimenter, de se nourrir et de, comme je le dis, de s'exonérer du péché de gourmandise, d'un rapport à la culpabilité de manger, puisque chez les hommes, et notamment enfin particulièrement les élites, ont découvert justement à travers la gastronomie et l'art de manger une pratique qu'ils qualifient eux-mêmes d'érudite, de raffinée, de littéraire, d'intellectuelle, qui n'est pas une pratique du ventre, mais qui est une pratique du palais, et qui, historiquement, pendant très 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 longtemps, était réservée aux hommes. Et en fait, ces deux pratiques-là, qui sont professionnalisantes ou au moins qui sont gratifiantes et qui anoblissent l'art de manger et de cuisiner, permettent une exonération vis-à-vis de cette culpabilité et ce qu'on appelait tout à l'heure une douleur qui n'est pas permise aux femmes ou en tout cas beaucoup moins.
Oui, bah du coup, ça fait une introduction parfaite à un truc dont je voulais parler, puisque du coup, comme je t'avais dit, ce podcast, c'est un podcast sur les pratiques artistiques et sur comment est-ce qu'on en parle, comment est-ce qu'on les structure, etc. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait au-delà du rapport femme-alimentation, c'est surtout la femme et la cuisine, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement, bah, pareil, en fait, il y a un double standard, comme tu disais, énorme de la cuisine pour nourrir la famille, pour nourrir le conjoint, pour nourrir les amis, et la cuisine comme étant de l'art, comme étant quelque chose de technique qui s'apprend, qui se perfectionne, etc., etc. Et de fait, il y a ce truc hyper impressionnant de les femmes nourrissent le monde, mais le font pas dans un cadre où elles sont valorisées pour ça, où elles sont rémunérées pour ça. Elles nourrissent à but non lucratif, entre guillemets. Et du coup, je voulais un petit peu parler de ça et déjà te demander, pour toi, qu'est-ce qui fait que il y a si peu de femmes qui sont chefs comparées aux hommes, alors que c'est elles qui nourrissent le reste du monde?
Bah, c'est vraiment c'est une exclusion. C'est-à-dire que dans plusieurs domaines, on sait que la professionnalisation est réservée aux hommes et on le repère particulièrement dans les domaines où les femmes auraient tendance à avoir un accès privilégié, en fait. À ces domaines-là. On le repère particulièrement dans le domaine, bah, par exemple, de la haute couture, dans le domaine de là, je pensais aussi aux, voilà, aux sages-femmes. En fait, les domaines qui sont vraiment auxquels les femmes sont plus souvent assignées historiquement, de façon très très ancienne, sont précisément ceux pour lesquels on les Je dis les hommes, mais j'aime pas parler des hommes parce que c'est plus compliqué que ça, pour lesquels les dominants, les élites, ont besoin de pratiquer ce que Bourdieu appelle la distinction, qui est vraiment un effort actif et très clair. Enfin, moi, l'image qui me vient, c'est vraiment de pousser la tête vraiment sous l'eau, en fait, et donc d'exclure, d'invisibiliser. Pour que ne ressortent que les têtes les plus celles qui correspondent à cette distinction et donc les hommes, les élites et donc c'est particulièrement vrai pour les grands créateurs de la haute couture face aux petites couturières, c'est particulièrement vrai dans le domaine médical, c'est particulièrement vrai dans le domaine Donc, dans le domaine médical du corps, où les femmes sont. C'est ce qu'explique bien Mona Chollet dans Sorcières, et enfin, c'est ce qu'on a établi vraiment avec tout ce qu'on comprend aujourd'hui hein, à travers voilà, les femmes qui connaissent si bien le corps et qui sont reléguées au statut de sorcières à partir du moment où elles deviennent. Où elles pratiquent des activités liées à cela. Alors que les hommes sont des grands médecins, et c'est particulièrement vrai dans le domaine de la cuisine, où les femmes sont, depuis l'Antiquité, assignées à la cuisine domestique, et où les hommes s'arrogent le statut de grand chef. Et c'est le cas, enfin, moi, ça m'intéresse toujours de voir les constances anthropologiques très anciennes, et vraiment, là, c'est une constance voilà, anthropologique culturelle. Très très ancienne depuis l'Antiquité. Dans l'Antiquité, au 5e siècle, il y a un moment où la cuisine, la grande cuisine devient démocratique. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'à chaque période où la grande cuisine s'est démocratisée, il y a eu cet effort actif pour dire oui, d'accord, la grande cuisine appartient à tout le monde, mais il y a quand même ceux qui savent la manger, qui savent la cuisiner et les autres non. Et évidemment, ceux qui savent la manger et la cuisiner, ce sont les hommes, les élites. Et c'est ce qui arrive au 5e siècle, au moment du règne de Périclès, où on décide d'établir un nouveau métier, un nouveau statut. C'est ce qu'on appelle le mageiros, qui est donc le premier grand chef cuisinier de l'histoire, qui est à la fois un prêtre, un boucher, voilà, un sacrificateur, qui est capable à la fois de cuisiner un grand repas, d'ordonner toute une cuisine, de savoir dans quel ordre on sert les plats, dans quel récipient, etc. Enfin, vraiment, il établit tout ça. En même temps, il sait cuisiner, il sait servir, il sait manger, il sait commenter le repas. Et donc ça, c'est le premier grand chef cuisinier de l'histoire. Il est payé très cher, il est choisi sur l'agora. Et les femmes sont maintenues dans leur popote domestique. Et encore, pas les soirs de fête.
Est-ce que tu penses, parce que je me faisais la réflexion aussi en réfléchissant à ça l'autre jour, est-ce que tu penses qu'il y a un lien aussi avec le fait que les femmes, elles sont souvent associées à tout ce qui va être le soin et que du coup, pour, enfin, qu'on rentrerait un petit peu le fait de nourrir la famille, de nourrir le conjoint, etc., dans ce truc de elles prennent soin des autres et que du coup, c'est complètement quelque chose qui est en dehors d'une logique de. Je vais commercialiser ça ou je vais le professionnaliser et recevoir quelque chose, donc que ce soit de quelque chose de symbolique comme tu disais, un titre ou même recevoir carrément une rémunération pour ça. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi ce truc de du coup, vu que tu es censé le faire parce que tu es dans le soin à l'autre, du coup, tu peux pas demander à être rémunéré pour ça parce que ça salit entre guillemets ce bon sentiment-là ou pas?
Bah oui, mais ce qui n'empêche pas les grands chefs
Oui,
de.
oui.
Mais oui, il doit y avoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on remarque très bien, et c'est vraiment, pardon, je reviens toujours à Simone de Beauvoir, mais c'est quand même la Bible, ce qu'elle repère très bien, c'est que en fait, tout ce qui permet de naturellement, enfin, d'essentialiser les femmes dans leurs fonctions biologiques et de biologiser, en fait, d'essentialiser leur nature en disant qu'elles sont nourricières par nature, et vraiment de les animaliser dans ce sens-là, hein, en considérant que c'est leur fonction naturelle, et dans un deuxième temps, de dégrader cette fonction naturelle en l'infériorisant, en considérant qu'elle ne peut pas s'éduquer, en fait, qu'elle ne peut pas se raffiner, aller vers des sphères intellectuelle comme ce qui est le cas dans l'histoire de la gastronomie, hein. Il y a vraiment ce cheminement qui est effectué vers une intellectualisation de la cuisine, mais qui est réservée aux hommes et qui n'est pas atteignable pour les femmes, qui doivent être maintenues dans un rapport naturalisé, animal, à la fois dans la façon de manger, donc un rapport glouton à l'alimentation. Elles sont, d'après ce que dit Bria Savarin et Grimaud de la Reynière, qui sont vraiment les premiers gastronomes au XIXe siècle, qui écrivent vraiment, qui établissent ce concept-là. Les femmes sont incapables d'éduquer leur palais. Elles sont obligatoirement, elles ne savent manger que des choses sucrées qui ne demandent pas d'éducation du palais, qui sont les premières saveurs auxquelles s'intéresse l'enfant, en fait, qui, enfin, auxquelles s'intéresse, auxquelles, vers lesquelles sont attirés les enfants et les femmes. Alors que les hommes sont capables de complexifier les saveurs, de raffiner leur palais. Donc vraiment, voilà, ce maintien dans un rapport vraiment naturel et essentiel des femmes à l'alimentation, à l'art de manger, mais aussi à l'art de cuisiner. Et donc dans cette idée de mère nourricière, effectivement, de care, de prendre soin, puisque c'est le rôle évidemment de la femme, non seulement d'enfanter, mais de prendre soin de ses rejetons, de sa famille, quoi. Donc c'est vraiment, enfin, tout ça est une savante construction culturelle quand même pour inférioriser les femmes et les maintenir dans un rapport à la nature et dans une impossibilité de s'élever et de s'éduquer.
Oui, puis je pense que tout ce truc de rationaliser aussi la pratique, enfin moi j'avais déjà entendu, on m'avait raconté que ça avait été un petit peu le même truc pour la médecine où en fait, il y a eu un moment donné, pardon, où on a rationalisé la médecine, comment est-ce que on soigne les maladies, comment est-ce qu'on fabrique, de quoi les soigner, etc. Et que du coup, ça avait exclu automatiquement toutes les femmes qui avant, en fait, avaient aussi des savoirs que c'était transmis de génération en génération, en disant du coup, c'est pas quelque chose qui répond à nos règles rationnelles de tel principe actif ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, on met ça derrière en disant, elles font de la sorcellerie ou alors, elles savent pas ce qu'elles font. Et donc, du coup, on les a exclus comme ça aussi de la médecine. Et c'est vrai que la cuisine, pour moi, c'est pareil parce que il y a plein de techniques de cuisine, enfin, en tout cas de façon de cuisiner qui sont un peu méprisées. Mais par exemple, il y a plein de gens, je vois par exemple ma tante chez qui je mange souvent en ce moment, ça fait des dizaines d'années qu'elle cuisine, elle n'a pas de balance chez elle, quoi. Et c'est vrai que c'est un truc qui, moi, m'avait choqué la première fois que j'avais réalisé ça, parce que moi, je cuisine avec. Je suis les recettes, tu vois, je mesure ce que je mets dans mon saladier, etc. Et en fait, elle cuisine extrêmement bien, mais elle se sert jamais. Enfin, elle a peut-être un verre doseur, tu vois, mais c'est pas. Sinon, elle n'a pas de quoi peser ce qu'elle met dans son saladier. Mais en fait, elle fait tout un petit peu. À force de le faire, elle sait quelle texture ça doit avoir, quelle couleur ça doit avoir,
Ouais.
quelle odeur, etc. Et en fait, elle se base dessus et ça marche très très bien. Et pour autant, ça, je pense que ce serait pas quelque chose qui serait valorisé parce que, effectivement, quand on lui demande une recette, c'est un peu compliqué parce que du coup, elle te dit, tu mets ça un peu comme ça, tu mets un verre de ça, une cuillère et demie de ça, et puis voilà quoi. Mais en fait, ça n'empêche que c'est un vrai savoir-faire qui vaut pas moins que une liste d'ingrédients aux 5 grammes près, quoi, tu vois.
Bah oui, bien sûr, ouais.
Et oui, c'est pour ça que du coup, je pense qu'il y a vraiment un des mécanismes, ça a été, comme tu dis, le fait de rationaliser ça, ça a de fait exclu toutes les pratiques un peu qui rentrent pas dans ce cadre conceptuel extrêmement précis, parce que ça touche les femmes, ça touche aussi toutes les cuisines qui sont pas des cuisines occidentales où on mesure tout au millimètre carré, tu vois. Et je pense que c'est un procédé qui a. En fait, c'est toujours un peu ce truc, je trouve, quand on parle de ces sujets-là, il y a toujours ce truc de nature-culture innée acquis. Et en fait, souvent, on va rattraper, rattacher, pardon, le féminin à tout ce qui va être de l'inné, quelque chose qui n'est pas travaillé,
Ouais.
comme tu dis, qui est pas, où tu l'obtiens pas avec des efforts, tu n'acquiers pas de la technique, quoi. C'est vraiment quelque chose de naturel
De la nature, ouais. Oui, c'est ça. Et puis ce qui est étonnant, c'est de se rendre compte que on associe à la nature quelque chose de... Enfin, en fait, l'étape d'après dans cette construction culturelle-là, infériorisante pour les femmes, c'est de pathologiser les femmes aussi. Et moi, je pense que enfin, toutes les pathologies dont les femmes souffrent sont aussi beaucoup de ce qu'on leur attribue, en fait, et de la façon dont on les diagnostique et dont on les observe. C'est-à-dire que pour moi, enfin, l'une de mes hypothèses, c'est de dire que les troubles des conduites alimentaires, c'est une parole active, c'est une résistance contre toutes ces injonctions contradictoires et contre toutes ces... Contre cette surdité du discours dominant vis-à-vis de ce que ressentent les femmes de l'intérieur comme dans leur subjectivité. Et tout de suite, on juge ça comme étant un ensemble de pathologies. Et le fait de pathologiser tout ça est lié aussi à cette naturalisation. Et ce qui est dingue, c'est de se rendre compte que la nature n'est perçue que sous son aspect le plus, en fait, imprévisible, dangereux. Vraiment, enfin, on associe les femmes et la nature dans un discours dégradant pour les femmes et pour la nature. Donc, d'un côté, cette pathologisation, ce côté imprévisible, insaisissable, et on ne voit pas tout ce qu'il peut y avoir de merveilleux, en fait. Dans l'idée de se ranger aussi du côté de la nature et qui peut être réhabilité par un combat qui est celui de qu'on appelle l'écoféminisme et qui voilà qui à mon sens vraiment revendique effectivement le fait d'avoir été donc non pas c'est pas de dire que naturellement les femmes sont plus proches de la nature que de la civilisation masculine, etc. C'est pas ça. C'est de dire que historiquement, culturellement, on a placé les femmes du côté, on a maintenu les femmes dans un rapport à la nature plus important en dégradant ce rapport-là. Et les écoféministes, leur logique, c'est de dire grâce à ça, on peut en tirer une gloire et une connaissance de la nature et du vivant. Qui nous permet d'être en fait de cultiver tout ce qu'on en a tiré comme connaissance et comme amour de la nature, en fait. Et donc de revendiquer cette proximité à la nature.
Effectivement, on fait un rapprochement entre aussi comment est-ce qu'on traite les femmes et comment est-ce qu'on traite la nature entre guillemets avec un grand N, quoi. Et le fait que ces oppressions sont complètement, enfin ces oppressions, pas forcément une oppression, mais en tout cas cette exploitation, elle est extrêmement, enfin elle est extrêmement liée au fait que voilà, on est sur une espèce d'échelle où tu as les hommes, on va dire les hommes privilégiés au-dessus, les autres en dessous, et puis en dessous tu as les femmes, et après derrière tu as les animaux et les plantes, quoi. Et
C'est ça.
donc du coup forcément c'est lié, et je pense qu'effectivement c'est pas quelque chose qu'on peut traiter de façon séparée, individuelle, quoi. Il faut voir un peu le truc dans son ensemble. Et je pense que en plus de ça, la cuisine, il y a un truc assez particulier de, en fait on prend des aliments qui sont assez bruts, tu vois, qui viennent littéralement de la terre en général, ou voilà, d'animaux qu'on a élevés, etc. Et en fait on le travaille pour en faire autre chose qui est plus raffiné, qui n'a plus de lien en fait avec ce à quoi ça ressemble à la base. Donc que ce soit tes plantes ou tes animaux, en fait quand ils ont ton assiette, ils ressemblent pas à ce à quoi ils sont, enfin ce à quoi ils ressemblent dans la nature. Et
Ouais.
je pense qu'il y a aussi un truc avec ça, le fait que on rattache souvent les femmes à une espèce de cuisine un peu grossière, de tradition, qui est plus dans la quantité que la qualité, qui est plus dans il faut nourrir que il faut travailler un petit peu ton palais. Je pense qu'il y a aussi ce truc de on voit les hommes comme étant plus capables aussi de travailler tu vois, ces matières-là, et en faire quelque chose qui transcende complètement leur état de base, tu vois. Peut-être on voit moins, enfin j'ai l'impression que on prête un peu moins ça aux femmes, quoi.
Ouais, c'est complètement ça.
Je pensais à un dernier truc avant de passer à la question suivante, mais aussi, du coup, petite anecdote encore. Je ne sais pas si, parce que j'ai appris ça très récemment, et ça m'a fait un peu rire, mais tu vois, rire un peu aigri, parce que je lisais un truc sur les tartes tatin, tu vois, et le fait que l'histoire classique, c'est un peu le truc de, en fait, il y a quelqu'un qui s'est trompé, Madame Tatin s'est trompée, elle a mis
Oui.
ses pommes avant de mettre la pâte, etc. Et en fait, je lisais je sais plus, c'était un article ou quoi, qui disait, en fait, les sœurs Tatin, elles avaient un resto qui marchait très très bien. Et le fait est que c'était des cuisinières extrêmement douées, et que la tarte Tatin, c'est le résultat de plein de tests qu'elles ont faits, parce qu'elles avaient envie
Ouais.
d'innover un petit peu la tarte, tu vois. Et du coup, la personne disait le nombre de choses dans l'histoire qui ont été attribuées à des bêtises ou à des inattentions, tu vois. Pour pas dire qu'en fait c'était de la technique et que c'était de la
C'est
recherche vraiment
génial.
gastronomique, tu vois. Et je me dis, ça a dû arriver beaucoup en fait dans l'histoire de qu'il y ait des découvertes comme ça qui soient anonymes, soit associées à des femmes, mais à des femmes qui les ont découvertes un peu malgré elles, tu vois. Et je pense que l'histoire est vraiment jonchée d'anecdotes comme ça qu'on connaît pas. Et je me suis dit, mais toute ma vie j'ai cru que la tarte tatin c'était issue d'une erreur, quoi, alors que c'était des essais
C'est
et des
génial.
essais et des essais, quoi.
Mais c'est dingue, mais c'est une histoire qu'on adore raconter en plus parce que, en fait, ce qui est fou, c'est de se rendre compte quand tu commences à mettre les lunettes du féminisme et de la déconstruction culturelle en général, hein, de la déconstruction des stéréotypes, je trouve que le monde devient à la fois fascinant et désespérant parce que on se rend compte qu'on est tout le temps en train de, en fait, d'annoncer les mêmes idioties, les mêmes anecdotes, et y compris nous, hein. Enfin, moi, je me mets dans le lot, raconter tout le temps les mêmes clichés, en fait. Enfin, je veux dire, il y a d'autres, il y a plein d'autres sujets, et c'est vraiment ce que travaille le féminisme, c'est aussi à ne sous-considérer aucun sujet, à vraiment considérer que tous les sujets, même les plus minuscules, sont pris dans cet ensemble de systèmes de stéréotypes qui fonctionnent ensemble et qui consistent tous à inférioriser les femmes, mais aussi les minorités, toutes les autres minorités de genre, de classe, d'ethnie. Et voilà, et on est vraiment dans un système comme ça où on annonce, on répète tout le temps les mêmes anecdotes qui collent à des, voilà, qui correspondent, qui confirment des stéréotypes. Et donc là, en l'occurrence, c'est vraiment venir confirmer le stéréotype de la femme idiote qui ne peut qui ne peut réaliser quelque chose que par accident,
C'est ça.
de pas. Et puis voilà, la femme un peu débile qui retourne sa tarte, qui cuit sa tarte à l'envers. Mais je pense que ça a l'air drôle et ça l'est. Il faut pas non plus, se priver d'avoir de l'humour. De toute façon, les féministes en ont beaucoup. Mais c'est drôle et en même temps, c'est important de se rendre compte de ce que ça dénote, quoi. Et de déconstruire tout ça.
Oui, c'est ça. C'est ça, parce que en soi, si ça avait été vraiment une erreur, ça aurait été une histoire marrante, quoi. C'est juste que le jour où tu réalises qu'en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé et que tu te dis, ah, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on me raconte ça depuis que je cuisine? Pourquoi est-ce que j'entends cette histoire? Et tu te dis, ah, bah, en fait, là, maintenant, ça ne me fait plus rire, quoi, parce que c'est juste un discours qui, effectivement, bah, se nourrit un cliché et inversement, quoi. Le cliché a nourri l'anecdote aussi, je pense. Mais oui, du coup, effectivement, ça m'avait fait un petit peu quelque chose de me dire, ah, en fait, je sais pas, tu vois, je me suis dit, ah, mais en fait, je vois ce plat très différemment maintenant et je me dis, purée, il y a des gens qui ont travaillé pour ça, il faut que je le réussisse, tu vois.
Ouais.
Mais ouais, et du coup, bah, j'aimerais bien passer sur ce truc parce qu'on touche un peu ce sujet depuis tout à l'heure et on en parle. Mais du coup, y a vraiment cette dichotomie de domestique versus professionnel ou artistique, parce que dans le cas de la cuisine, il y a vraiment cette notion de bah, c'est un art à part entière et on paye pour, même si c'est, comme tu disais tout à l'heure, un art extrêmement éphémère, en fait, on va payer quand même pour consommer c'est le fruit de cette technique, de cet art-là. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, on tourne autour de ça depuis tout à l'heure, parce que on a parlé de ces différences entre bah, la cuisine pour nourrir, la cuisine pour faire de l'art, et comment les femmes sont exclues aussi de cette gastronomie-là. Quelles sont les différences entre la cuisine pro et enfin, la cuisine, pardon, oui, la cuisine professionnelle et la cuisine domestique?
Clairement, c'est en tout cas une différence qui est extrêmement appuyée en fait par tout un discours et par toute une rhétorique et de différentes manières. Hein. Là, je suis en train de penser à chaque fois, ce sont des choses qui sont que des exemples parce qu'en fait, tout contribue à maintenir cette distinction de genre et de classe dans l'art de cuisiner. Et notamment, je pense qu'on a toutes et tous chez nous des livres de cuisine transmis par nos mères ou nos grands-mères. Enfin, si vous avez la chance d'en avoir, vous pouvez jeter un œil. Il y a des recettes qui sont souvent qualifiées de à la bonne femme ou à la bonne ménagère. Et alors, à l'inverse, on a des recettes qui sont qualifiées de à la financière, des choses comme ça, à la princière. Les recettes qui sont qualifiées de à la financière, à la princière, ça va être le vol au vent, des choses complexes à réaliser. Alors que les recettes qui sont qualifiées de à la ménagère ou à la bonne femme, ce sont des cuisines qui sont considérées comme simples, sans sophistication. Donc les potages, le céleri, voilà, vraiment des choses extrêmement simples. Le jus de céleri à la bonne ménagère, à la bonne femme. Donc, c'est vraiment devenu, en fait, c'est rentré dans la langue, quoi. C'est devenu une expression pour qualifier des recettes simples qui ne demandent pas de sophistication dans la préparation. Et ça vient vraiment de ce moment dont je parlais tout à l'heure, qui avait déjà eu lieu à plusieurs moments de l'histoire, hein, comme je disais avec le Magueros dans l'Antiquité, mais qui s'est vraiment établi et institué de façon à la fois, c'est bizarre parce que c'est à la fois flagrant et discret parce que personne ne l'a dénoncé à ce moment-là, mais même toute la rhétorique militaire, le fait de dire chef, oui, de dire oui
Oui, c'est
chef,
vrai.
d'appeler ça, voilà, d'appeler la cuisine une brigade. L'équipe de cuisine, une brigade, toute la hiérarchie militaire, tout ça, c'est vraiment une façon de créer une distinction de genre et de classe pour militariser, viriliser un domaine qui, au départ, risque d'être trop féminin. Et donc, pour éviter qu'il y ait trop de femmes professionnelles et pour vraiment créer une distinction très claire entre les femmes qui font la cuisine domestique et les hommes qui font la cuisine professionnelle. On a créé cette distinction linguistique, mais aussi institutionnelle, hein. On a empêché les femmes de... les femmes n'étaient pas autorisées à étudier la cuisine. Les écoles de cuisine étaient réservées aux hommes jusqu'à très récemment. Voilà, le costume pour les chefs cuisiniers était masculin. Enfin, voilà, tout ça, c'est vraiment des recherches qu'on essaye de préciser en ce moment, qui sont notamment très, très documentées par une doctorante qui s'appelle Estherelle Payani, qui est aussi journaliste culinaire et qui est aussi critique, l'une des seules critiques culinaires de la presse française, qui travaille pour le magazine Télérama et qui mène une recherche doctorale pour en fait retracer toute cette histoire qui a été elle-même effacée de l'invisibilisation des femmes dans le domaine de la cuisine professionnelle et gastronomique.
Ouais, bah je pense qu'effectivement, il y a un gros terrain là bien déblayé parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Bah, que ce soit effectivement comment ces milieux-là sont structurés, le fait que voilà, c'est très avec tout ce truc autour du lexique militaire, bah, forcément, ça va exclure un certain nombre de personnes. Auquel en fait juste ce lexique ne s'adresse pas tout simplement. Je pense qu'il y a aussi un truc avec le fait que c'est quand même un milieu aussi où bah, il y a des horaires qui sont un peu particuliers, où il y a une disponibilité qui est particulière et qui n'est pas forcément concordante avec le partage des tâches dans beaucoup de foyers où bah, du coup la femme doit assurer un certain nombre de tâches domestiques et qu'elle ne peut pas assurer si... Elle est au travail à certaines heures un peu clés, quoi.
Bien
Je
sûr.
pense que ça joue aussi. Et du coup, moi, je voulais finir un petit peu sur cette question de... bah, en fait, la question que je me pose après tout ça, parce qu'on a quand même déblayé pas mal le sujet, c'est bah, comment est-ce qu'on peut redonner une place aux femmes dans... enfin, une place aux femmes correcte, justement, par rapport à leurs compétences, par rapport à ce qu'elles sont capables de produire et à leurs connaissances dans la cuisine. Parce que pour moi, il y a cette question de est-ce que ça suffit de rendre accessible la cuisine professionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou est-ce que il faut d'abord se concentrer sur le fait de valoriser ce qui n'est pas valorisé actuellement et ce qui n'est pas considéré comme professionnel, alors que bah, ça, c'est quand même le résultat de techniques et de savoirs ancestraux qui sont transmis. Depuis des générations, quoi, à ton avis.
Moi, je crois vraiment qu'en tout cas, le combat, il est celui qui est mené actuellement et qu'on doit être très nombreux et nombreuses à mener. Je pense que les hommes doivent le mener aussi, qui est ce combat contre à la fois l'invisibilisation des femmes dans le milieu professionnel de la cuisine, à la fois dans le milieu de la gastronomie et des récompenses. Donc, c'est vraiment une lutte qui est très actuelle et enfin on n'est jamais assez nombreuses et nombreux pour la mener et en même temps vraiment ouais une déconstruction des croyances en fait qui sont durables, qui sont persistantes, bah des croyances par exemple sur l'impossibilité des femmes à acquérir un savoir, à complexifier leur palais, leur goût, à raffiner leur commentaires culinaires, leurs critiques culinaires, etc. Et puis il y a aussi le fait d'arrêter de répéter des idioties du genre que les femmes physiquement ne sont pas capables de préparer telle ou telle chose ou de porter tel ou tel outil pour cuisiner, enfin, ce qui est complètement faux. Il y a énormément de femmes dans les écoles hôtelières qui sont mortes de rire avec sur ces croyances-là parce qu'elles se rendent bien compte que bah, très souvent elles s'évanouissent beaucoup moins que les hommes en voyant le sang des bêtes. Enfin, bon, ça c'est pour
Oui, je
rigoler,
vois.
mais voilà, enfin, la capacité physique pour porter, pour cuisiner, pour s'équiper, la capacité pour résister à ce travail qui effectivement est très dur, et la capacité physiologique de faire évoluer son goût est totalement accessible pour les femmes et c'est des aberrations qui continuent de se maintenir et qu'il faut impérativement déconstruire tout en œuvrant à vraiment à remettre en visibilisation les femmes de l'histoire qui ont été même récompensées, parce que même celles qui ont été récompensées ont été oubliées de l'histoire, ne sont jamais citées. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est tout un travail historique qui consiste à contester cette invisibilisation historique et actuelle. Il y a un documentaire qui a été fait par toujours Estherelle Payani et Vehrehan Frediani qui montre toutes les femmes qui sont dans des grandes cuisines dans le monde entier et qui montrent qu'elles existent et qu'il faut arrêter de dire qu'il n'y en a pas parce que c'est toujours le super argument pour quand on demande
Oui,
aux
bah oui.
médias pourquoi elles ne sont pas représentées, c'est parce qu'il n'y en a pas. Bah si, en fait, il y en a.
Oui, c'est un peu toujours le serpent qui se mord la queue. Tu n'en vois pas, donc tu te dis pas que c'est possible. Et puis moins t'en vois, enfin donc du coup, vous êtes de moins en moins dans cette profession-là, donc vous êtes de moins en moins visible. Enfin, c'est un peu.
Voilà.
Mais du coup, merci pour le documentaire, parce que justement, j'allais te demander, parce qu'effectivement, je pense qu'on est d'accord, il faut déconstruire toutes ces croyances-là. Et moi, je me demandais concrètement comment tu penses qu'on peut déconstruire ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement ancré, qui en plus transcende un peu la sphère domestique, tu vois, parce que c'est pas juste un truc qui est de l'ordre de répartition des tâches ou les femmes vont faire tel type de cuisine, c'est vraiment dans les milieux professionnels quelque chose qui est amplifié, je trouve, dans les cuisines. Et du coup, comment, à ton avis, on peut. Donc, j'imagine que voilà, le fait qu'il y ait ce genre de documentaire qui sorte, c'est déjà bien, puisque ça fait de la visibilité sur des personnes qu'on ne voit effectivement jamais. Est-ce que tu vois d'autres choses qui permettraient de déconstruire un peu cette image qu'on peut avoir sur la cuisine et les femmes dans la cuisine?
Bah moi, je pense vraiment que il faut se documenter, s'éduquer, vraiment lire, écouter ton podcast. Enfin, je pense que vraiment, ça passe par une. Pour moi, le féminisme, c'est actuel, il est incroyablement riche et pointu, et en même temps très accessible. Enfin, il y a vraiment un travail de la part des chercheurs, chercheuses. Journaliste, podcasteur, podcasteuse, écrivain, écrivaine, enfin romancière, enfin vraiment à tous les niveaux. Et je trouve que ce qui est essentiel, c'est de se nourrir de tout ça et d'œuvrer à sa petite mesure sans culpabiliser de pas le faire assez, parce qu'on fait ce qu'on peut. Mais voyez, tu vois, le fait que tu parlais des représentations culturelles aussi. Enfin, voilà, le fait de mettre en scène, par exemple, si on est cinéaste, autrice de fiction ou auteur de fiction, mettre en scène des personnages un peu différents dans leur rapport à l'alimentation, à la façon de se nourrir. En fait, je pense que tous ces combats-là, il faut les écouter, il faut les encourager. Le plus possible. Et je pense que vraiment s'éduquer et se documenter, c'est pour diffuser aussi, faire circuler ces connaissances-là, qui sont des connaissances vraiment beaucoup plus intéressantes que les discours qui circulent depuis des siècles là-dessus. Je trouve que c'est ça qui nous éveille et qui nous permet d'y croire. Et voilà, et moi, le travail que j'ai fait d'articuler en fait ce combat. Enfin, c'est pas instinctif, on se dit, c'est pas intuitif tout de suite, on comprend pas tout de suite le lien entre les combats dont on est en train de parler et les troubles des conduites alimentaires et le fait qu'il y ait une culpabilité si fréquente des femmes dans leur façon de manger. Mais ce qui est assez dingue, c'est de voir à quel point ça résonne. Voilà, tout de suite, des femmes qui travaillent dans le milieu de la cuisine m'ont tout de suite écrit pour me dire que ça résonnait pour elles, parce que évidemment que elles voient le lien en fait, cette façon dont elles sont infériorisées en permanence et dont leur travail n'est pas reconnu, Évidemment que ça joue sur le rapport à la nourriture et à l'alimentation qui est perçue comme quelque chose qui, du côté féminin, serait forcément inéducable. Et donc, je pense que vraiment, enfin, le travail à faire, il consiste à œuvrer à sa petite mesure sans, enfin, je veux dire, sans se mettre des. Moi, je peux vraiment pas, j'aime pas culpabiliser les gens. Pour moi, c'est vraiment un travail qui doit être systémique et c'est aux chercheurs, chercheuses, aux politiques de santé d'arrêter de culpabiliser les gens aussi. C'est tout le travail autour de la grossophobie. Enfin, c'est une constellation de luttes, en fait, qui doivent être politiques et qui doivent être systémiques. Et après, je suis pas sûre que chacun, chacune, on y puisse grand-chose si ce n'est de s'éveiller à tout ça, de s'éclairer, de s'éduquer, de s'y intéresser et d'encourager ces mouvements-là, en fait. C'est tout ce qu'on peut faire parce que réussir à déconstruire ça à l'intérieur de nos propres cerveaux et de nos propres corps, c'est très dur. Et ça, moi, vraiment, je culpabilise personne, je blâme personne sur le fait de ne pas y arriver et de continuer à être maladroite malgré nous avec nos amis, nos sœurs, nos cousines, nos filles qui s'alimentent, voilà, qui ont un rapport, une culpabilité qui parfois les amène à se mettre en danger. Enfin, et on est maladroite avec ces choses-là parce que le tabou est là et qu'on n'en parle pas assez. Donc voilà, pour moi, la seule clé possible, c'est d'en parler. D'en parler le plus possible et surtout de se mettre à l'écoute et d'encourager, en fait, toutes ces luttes-là.
Oui, tu as raison, je pense que c'est important de garder en tête que c'est pas une déconstruction qui est facile. Enfin, bon, il n'y a aucune déconstruction qui est facile, mais là, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le quotidien. En plus, on mange plusieurs fois par jour, on mange avec plein de personnes différentes, selon des rituels qui sont parfois un peu différents, si c'est en famille, si c'est avec des amis, etc., etc. Et c'est vrai que du coup, toute la journée, en fait, on est confronté à ce truc-là, avec tout ce que ça a d'intense comme sujet, tout ce que ça cache aussi de sentiments un peu contradictoires qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que moi, des fois, j'ai tendance, je sais, à être un petit peu dure avec ça parce que c'est des sujets qui me touchent, mais c'est vrai que de fait, je pense que comme tu dis, tout le monde, enfin, on peut essayer de faire des choses à échelle individuelle et voilà, en parler autour de soi dès qu'on a appris quelque chose et puis se nourrir aussi de références qui donnent d'autres images et qui permettent d'avoir d'autres imaginaires. Mais c'est vrai que, bien entendu, tout seul, on ne va pas changer. Faut que ce soit un sujet dont s'empare aussi les pouvoirs publics, dont s'empare la publicité. Enfin voilà, c'est beaucoup plus large que nous, pauvres individus, quoi.
Exactement. Et je pense vraiment que, comme tu dis, les pouvoirs publics ont quelque chose à faire là-dedans aussi, les médias, les acteurs et actrices culturelles, enfin ceux qui créent des fictions aussi. En fait, à partir du moment où on crée des discours, que ce soit politique, culturel, artistique, on a une responsabilité en plus. Mais à échelle individuelle, je ne sais pas ce que tu veux dire quand tu dis que tu es dur là-dessus. Mais je trouve qu'à échelle individuelle, c'est vraiment. Moi, je culpabilise jamais et voilà, je pense que dans le rapport, par exemple, mère-fille ou père-fille, enfin, c'est tellement. Moi, j'ai pas d'enfant et je n'en veux pas, mais je trouve que c'est. J'imagine à quel point ça doit être difficile, en fait, de trouver la bonne position pour. Parce qu'on sait si on a une fille qu'elle va passer par là. Et comment on fait? Ça, je sais pas. Là-dessus, je
Ouais,
sais
c'est
pas.
compliqué.
C'est très compliqué parce que, à part, bah voilà, lui dire que, en fait, à part, justement, encore une fois, à part s'éveiller à ces sujets pour ne pas tomber dans des croyances du genre, ah, elle maigrit elle est en train de se priver de nourriture pour plaire aux garçons. Enfin voilà, ça c'est vraiment un truc que je déconstruis dans mon livre. C'est pas ça. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et quand on reçoit ce commentaire-là quand on est ado et qu'on se lance un peu dans les premiers régimes et qu'on flirte avec des trucs dangereux de type anorexie, entendre ça, c'est rajouter à toute l'incompréhension du monde qu'on reçoit déjà à longueur de temps. Et c'est pas une bonne idée. Mais encore une fois, je blâme pas malgré tout les parents qui disent ça parce que les pauvres, ils sont bien démunis face à tout ça, quoi, et face à ce grand tabou.
Oui, c'est ça. Et puis en plus, enfin, moi, je sais que ce pourquoi je suis un peu dure, tout à l'heure, je disais, c'est par rapport à tout ce qui va toucher à la grossophobie, par exemple. Étant une personne grosse, je sais qu'il y a des choses où, en fait, il y a des moments où, malgré moi, je me sens un peu attaquée. Même si, au fond de moi, tu vois, je sais que la personne en face, ce qu'elle dit, c'est en rapport avec ses problématiques à elle, ce qu'on lui renvoie à elle, tu vois, qu'elle soit grosse ou pas. Mais du coup, de fait, comme on vit dans une société où personne n'a envie d'être gros parce que c'est vraiment un des pires trucs qui pourrait arriver à quelqu'un, manifestement, et bah, du coup, il y a quand même souvent, tu vois, des remarques, même, tu vois, en mangeant avec des gens, tu vois, les gens qui stressent à l'idée de prendre ne serait-ce que 5 kilos, même 1 kilo, tu vois, et te dire, en fait, le pire cauchemar de cette personne, c'est de me ressembler. Bah, moi, j'ai tendance à le prendre personnellement, alors qu'au fond, je sais que elle pense pas spécifiquement à moi quand elle le dit, tu vois. Mais de fait, j'ai des fois des petits relents où j'arrive pas à séparer ce truc-là et où du coup je le prends personnellement et je suis des fois un peu dure avec la personne en disant, bon, en vrai, là, bon, voilà, tu vois, ne me dis pas
Mais
ça à moi.
même quand la personne ne t'attaque pas personnellement, même quand la personne juste te dit qu'elle a peur de grossir,
Bah
est-ce
oui,
que...
parce que le sous-titre de ça, c'est quand même dire qu'être grosse, c'est horrible, tu vois. Et du coup, moi, ça me renvoie à un état de fait de bah, je suis grosse et je vis dans une société grossophobe. Et donc, du coup, ça me rappelle juste que, si tu veux, je suis dans une société où un des pires cauchemars des gens en rapport avec la nourriture, c'est d'arriver à me ressembler ou de ressembler à une personne plus grosse que moi, tu vois. Et du coup, je pense que c'est. Des fois, j'ai du mal à décorréler ça et je pense que. De fait, il y a un truc quand même avec ça où je trouve que c'est quand même grave au final, même si j'entends hein, qu'il y a des problèmes d'ordre complexe personnel, etc. Mais je pense que c'est quand même grave d'arriver à un stade comme on est aujourd'hui où c'est OK de dire ça alors que tu as une personne en face qui est concernée par le truc et qui, bien sûr, dans une vie, enfin, tu vis dans une société grossophobe, bien sûr que tu vis mal le fait d'être gros, tu vois. C'est impossible. Tu peux être body positive comme tu veux, tu peux déconstruire ce que tu veux, bah ça n'empêche que tu vois bien que l'espace public il n'est pas adapté à ton corps, que les médecins sont horribles avec toi et te font sentir que voilà ton corps n'est pas celui qu'il devrait être et que tu vas mourir et que enfin tu vas mourir plus jeune, tu vas être malade, etc. etc. Et je pense qu'il y a un truc quand même avec un une un c'est décomplexé en fait si tu veux le fait de faire ces remarques
Ouais,
là
je
il y a ce
comprends.
truc tu vois de en fait je pourrais prendre un exemple un peu horrible tu vois mais c'est comme quelqu'un qui est malade tu vois et dire devant lui ah franchement je détesterais être malade tu vois on le
Ouais,
dirait
je
pas parce qu'on
comprends.
se dirait ça se fait pas et là avec les gros on se le dit pas parce que juste c'est admis dans la société que bah c'est OK de dire ça et que nous on est censé tu vois se sentir
Oui,
mal
et
par
puis que
rapport à
c'est un
ça
peu de la
donc
responsabilité de la personne aussi. C'est un
voilà
peu
c'est ça.
aussi ça qui est sous-entendu.
C'est
Non, mais
ça.
je vois ce que tu veux dire et je trouve que je suis d'accord avec toi que c'est très maladroit. Et en même temps, j'ai juste envie de nuancer un tout petit peu, si tu me permets,
Oui, vas-y.
parce que dans l'enquête que j'ai menée, il y a tout un moment en fait où j'ai cherché à comprendre enfin, de quoi elle était composée cette peur de grossir qui est si fréquente, qui n'est pas, comme je le dis dans mon livre, qui n'est pas le seul levier de tous les tourments que je décris dans la peur de manger, hein, dans la culpabilité de manger. C'est un des leviers que je repère, c'est la peur de grossir, mais c'est pas le seul. Et c'est pas la seule. Et par contre, dans la peur de grossir, moi, j'ai essayé de fouiller, de creuser, d'interroger les femmes sur leur peur si fréquente de grossir. Et il y a, enfin, c'est pas toujours une peur de. Alors, il y a cette idée, effectivement, d'avoir peur d'être grosse dans une société grossophobe et tout ce que ça engendre comme difficulté sociale, comme discrimination, comme brutalité subie. Il y a ça, mais il y a aussi un truc qui est quand même assez dingue et qui est revenu et que moi je peux ressentir parfois, qui est la peur et en même temps, enfin c'est assez difficile à décrire, hein, c'est une peur slash désir de prendre sa place, de vraiment prendre, vraiment de s'exprimer, enfin, comme une peur de laisser sortir, en fait, un peu comme on peut avoir peur parfois de, je ne sais pas si ça t'arrive parfois, moi ça m'arrive très souvent d'être à un dîner et de me dire, merde, je suis en train de parler trop fort, enfin. Je suis, tu vois, avec des, surtout s'il y a des hommes dans à table, et ben rapidement je vais me dire merde, je parle trop fort là, je donne trop mon point de vue, j'ai l'air d'avoir trop de personnalité, trop, enfin tu vois, et d'un coup je commence à me calmer et à rentrer un peu dans des petits chaussons de fille bien élevée comme on m'a appris. Parce que attention, il faut rester douce, quoi. Et ben, c'est un peu le même genre, enfin, de truc que j'ai ressenti dans plein de témoignages où il y a une espèce de peur, mais aussi de peur qui est presque du désir, parce que ces femmes-là, très souvent, quand tu leur demandes, il leur arrive d'admirer en fait des femmes de leur entourage qui sont corpulentes et qui s'assument comme telles, qui prennent la place, qui parlent fort, qui rient fort, et qui voilà, et qui à la fois physiquement et dans la personnalité peuvent oser un peu et ne pas, tu vois, et
Je
c'est
vois.
parfois lié en fait. Et du coup, je pense que juste, enfin, quand tu te dis ça, je pense qu'il faut aussi que tu gardes en tête, peut-être, hein, c'est juste une suggestion, mais que peut-être parfois c'est pas une simple peur basique de. Tu vois, d'être grosse dans une société grossophobe ou de te ressembler comme tu dis, c'est tu vois, ça peut être quelque chose de contradictoire en fait, difficile à exprimer et à identifier.
Ouais, je comprends ce que tu dis et c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est bien qu'on ait cette discussion parce que j'entends tout à fait que c'est beaucoup plus complexe et qu'il y a énormément de facteurs qui amènent à ce comportement-là. Donc du coup voilà, c'est ma partie à moi à déconstruire aussi de bon bah c'est pas toujours dirigé à ce que je représente, mais c'est juste effectivement une combinaison de plein d'injonctions différentes qui s'abattent sur une personne à un instant T et qui font que
Mais
oui
ouais.
elle va avoir cette peur-là en fait qui est pas forcément rationnelle mais en tout cas qui s'explique par plein plein de choses. Et oui, puis je pense
Mais
qu'il y
c'est hyper
a.
intéressant de chercher à savoir comment tu peux, toi, répondre à ces personnes-là sans. Enfin, j'avoue que je m'étais jamais posé la question de cette façon-là, et là, tu m'amènes à le faire, et je trouve ça vraiment intéressant et intelligent aussi ta façon d'y réfléchir, parce que c'est vraiment. J'ai l'impression que tu as aussi envie. Enfin, de trouver peut-être une réponse qui soit pas stigmatisante pour la personne, qui soit dans une compréhension que tu as, puisque tu as cette compréhension, puisque tu dis toi-même, bon, bah, en même temps, je les comprends d'avoir peur de grossir, puisqu'on est dans une société grossophobe. Et du coup, ce serait vraiment intéressant de trouver, tu vois, une phrase ou deux qui puisse te permettre de répondre à ces personnes-là pour qu'elles-mêmes, bah, comprennent qu'elles ont dit quelque chose de maladroit et en même temps sans les stigmatiser, quoi. Je sais pas, enfin, faut y réfléchir, mais je trouve que c'est vraiment une réflexion intéressante à mener.
Ouais, je suis d'accord. Bah, je pense que c'est vraiment pour le coup une gymnastique assez fine parce que effectivement, en très peu de phrases, tu vois, c'est difficile de d'arriver à amener ce truc-là sans effectivement que la personne elle se sente un petit peu attaquée et qu'elle se dise bah j'ai dit un truc affreux et c'est la fin du monde, tu vois. Et en même temps, il y a ce truc que moi je trouve ça plus facile d'aborder ce sujet-là quand t'es pas concerné. Mais quand tu es concerné, il y a aussi une partie de toi, tu vois, que tu mets dans ce discours-là. Et du coup, je trouve ça encore plus difficile des fois d'aborder ce sujet-là sans attaquer la personne, mais en se préservant soi-même aussi, tu vois. Parce que ça reste quand même des échanges qui peuvent être un petit peu douloureux, parce que ça ramène au fait que, oui, tu vis dans une société qui n'est pas calibrée pour toi et qui ne veut pas l'être parce que... on associe ton état à quelque chose de moralement mauvais, tu vois. Parce qu'il y a ce truc avec... mais pour revenir au sujet de l'épisode, enfin, c'est... il y a le truc avec le fait que tu es gros, donc ça veut dire que tu aimes bien manger et que tu te contrôles pas. Et que du coup, tu as ce truc de très animal, encore une fois, de
Ouais.
je mange et je ne contrôle pas ce que je mange, je ne contrôle pas la qualité de ce que je mange. Et du coup, c'est un peu de ma faute, tu vois, si... si je suis dans l'état dans lequel je suis, entre très grosses guillemets. Et donc, du coup, je trouve que c'est difficile des fois d'avoir cette discussion de façon apaisée parce que nous, ça nous renvoie à tout un champ de, tu vois, de culpabilisation aussi, dont on essaye de s'extirper, mais c'est comme tout, y a des rechutes, il y a des moments où on y croit un peu moins, tu vois, à notre déconstruction. Et du coup, je trouve que c'est difficile d'avoir cette discussion-là parce qu'il y a ce truc de je ne dois pas blesser l'autre personne, mais je ne dois pas me blesser moi-même non plus, tu vois. Donc,
non,
c'est
mais je
compliqué.
comprends. Est-ce que je peux te suggérer un truc? Tu me dis, je ne sais pas si on est toujours, si tu es d'accord, si on a encore le temps pour ça, mais j'ai une petite idée qui me vient sur la façon de répondre à cette personne, parce que je trouve que ce travail-là, tu vois, tu me disais quels sont les leviers pour sortir des problématiques et tout. Je trouve que cette réflexion à mener sur comment tu réponds dans un cadre même hyper privé, tu vois, à quelqu'un sans l'agresser, vraiment en tenant compte de tout ce qu'on sait des constructions culturelles dans lesquelles on est toutes et tous pris, tu vois, et bah je trouve que c'est une vraie réflexion qui est plus large que juste le contexte privé, parce qu'elle permet, en fait, si on était vraiment dans cette logique, dans cette recherche-là en permanence, chacun et chacune, et bah ça permettrait de faire circuler une parole juste et pas agressive, tu vois. Et là, la petite idée qui me vient, tu vois, je suis en train de me remettre dans la situation où j'imagine quelqu'un qui te dise à toi directement, alors que toi, tu te sens en surpoids. Et bah, qui te dit directement, ah, moi, ma peur énorme, c'est de grossir. Et toi, tu te sens immédiatement visé. Et donc, ton premier réflexe, c'est un peu de te protéger et de dire quelque chose à cette personne qui veuille quand même dire, bon, bah, tu viens d'être un peu maladroite, mais je te comprends. Et bah, je me dis que la meilleure réponse, peut-être, ce serait de lui dire, tu me dis ce que tu en penses, hein, mais ce serait de lui dire, bah, c'est normal que tu aies peur de grossir. Moi, je sais ce que c'est, puisque moi, je suis considérée comme étant en surpoids dans une société qui est grossophobe. Et effectivement, c'est difficile à vivre. Et c'est d'autant plus difficile à vivre quand ça n'est associé qu'à la peur, comme ce que tu viens de faire là, sans faire exprès, et je t'en veux pas. Mais on vivrait toutes et tous beaucoup mieux dans une société où ça n'est pas associé qu'à la peur, mais où ça peut aussi comporter des vertus, de prendre sa place, et ça peut correspondre aussi au fait d'avoir des corps différents les unes des autres et de pas être que sur un seul modèle qui est complètement intenable pour tout le monde et qui fait souffrir tout le monde. Peut-être qu'on peut souhaiter une société comme ça, quoi. Et ce que tu viens de dire fait que bah ça appuie le fait qu'on associe ça qu'à la peur, et je trouve ça un peu dommage. Mais je te comprends, parce qu'on est dans une société qui fonctionne sur ces ressorts-là. Tu vois, lui dire quelque chose comme ça.
Ouais, c'est pas mal. J'ai noté sur mon petit post-it. Mais oui, effectivement, c'est vrai que ça redirige la discussion sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre de qui est le coupable dans l'affaire, mais comment est-ce qu'on peut communiquer un petit peu mieux sur le sujet pour ne blesser personne au final et même soi-même arriver à mieux vivre le truc.
Ouais, et puis se comprendre, et en plus c'est aussi désaxer, justement, comme tu disais, le lien. Bah, on n'est pas forcément en surpoids que parce qu'on mange trop. Enfin, tu vois, c'est vraiment pas du tout la
Et
seule.
puis, quand bien même aussi, tu vois, il y a ce truc de manger beaucoup, pourquoi est-ce que c'est forcément mauvais, tu vois? Et c'est quand même beaucoup pour les femmes parce que les hommes, ils ont un gros appétit, personne ne s'en plaint, tu vois? Mais il y a ce truc de comme tu es dans l'excès bah, et pas dans la retenue, c'est forcément moins féminin. Et là, hop, une petite nouvelle injonction à rajouter à la liste,
Oui, c'est
quoi.
clair. Bah, en tout cas, moi, je préfère dire, tu vois, que si je souhaite une société où les personnes en surpoids se sentent bien et pas stigmatisées, je préfère dire que c'est parce qu'on aime avoir des corps différents et que les corps soient différents les uns des autres, que de dire que c'est parce que on aime bien manger et que, enfin, je sais pas quoi, tu vois, ça,
Ah oui,
je veux
bien
dire,
sûr.
ça. On peut bien aimer manger et rester hyper mince, ou enfin, tu vois, et c'est pas ça qui, pour moi,
Oui, bien sûr.
Face à
Oui, non, je disais ça
l'adversité,
dans le
je pense.
sens où on brandit souvent et je comprends pourquoi on le fait, ce truc de non, mais c'est pas que lié, enfin, on n'est pas gros parce qu'on aime manger et du coup, on doit toujours un
Oui.
petit peu se défendre de ça, de dire non, mais en fait, j'aime pas tant manger que ça, je vous jure, c'est pas ça. Alors
Oui,
que
je
des fois,
comprends.
tu vois, c'est le cas et je pense que c'est
Ouais.
pas forcément un truc pour lequel on doit être attaqué non plus,
Non, mais
mais
c'est
bien sûr,
clair.
y a tout un spectre de pourquoi est-ce que on a le corps qu'on a et c'est un facteur de plein de choses. Mais ouais, en tout cas, merci pour la petite phrase, les petites idées de réponse qui voilà, ne changent pas tout de suite l'ambiance de la pièce et la rend horrible, quoi.
Ouais, c'est ça. Et qui, au contraire, crée une discussion possible.
Ouais.
Mais c'est hyper difficile. Enfin, tu vois, moi, je subis beaucoup ça, par exemple, sur un tout autre sujet qui est le fait de ne pas faire d'enfant. Je trouve ça toujours hyper difficile de trouver la façon de ne pas attaquer les gens pour pas, comme tu dis, glacer l'ambiance de la pièce. Et puis pour être aussi dans cette compréhension, pour dire, bon, bah, on a tous grandi dans le même monde, c'est pas de notre faute. Et on va essayer ensemble de juste bah, se parler quand même. Et après, tu as des gens qui restent dans leur carcan débile, hein, et tant pis pour eux. Mais je trouve que faire cet effort-là, déjà, c'est un petit truc qu'on peut peut-être tous et toutes faire à la limite. Tu vois, s'il y a peut-être un truc qu'on
Ouais.
peut faire à notre échelle, c'est peut-être ça, quoi. Réfléchir vraiment à des façons de répondre qui soient. Bah, voilà, qui soit compréhensive, non agressive et qui ouvre qui fasse circuler un peu enfin, c'est juste ce regard, quoi, ce qui décale le regard et qui permette de déconstruire un peu les choses.
Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est une belle fin à cet échange, je trouve.
Ouais, carrément.
Pour finir, je sais pas si tu as eu le temps de réfléchir à ce que je t'avais marqué à la fin. J'aurais bien aimé terminer avec. Parce que bon, on a parlé de plein de choses, des choses plus ou moins positives, mais quand même beaucoup de choses qu'on avait envie de dénoncer, je pense, dans l'épisode. Et du coup, je voulais terminer sur une note un petit peu plus, un peu plus positive, un peu plus joyeuse, en mettant à l'honneur un petit peu justement les femmes dans la cuisine. Et du coup, je voulais savoir si tu avais en tête bah, soit une personnalité, soit un lieu ou une initiative qui serait. Bah, en faveur justement des femmes dans la cuisine dont tu aurais entendu
Ouais.
parler ou que tu connais.
Bah écoute, franchement, il y en a plusieurs, mais là en ce moment, pour moi, il y en a une qui est incontournable, c'est Manon Fleury, quoi, qui est vraiment une chef engagée qui s'engage dans une parole politique féministe, dans un qui voilà, qui engage aussi des changements de regard sur la façon de manager ses équipes. Voilà, de travailler en cuisine dans des logiques, enfin, avec des valeurs positives, comment dire, une horizontalisation de la hiérarchie, un soin apporté vraiment aussi aux sources à la fois des produits alimentaires, mais de tout ce qui constitue son restaurant. Enfin, vraiment, elle fait un travail qui est très impressionnant. Je devine qu'il doit y avoir évidemment des choses sur lesquelles elle est. Enfin, voilà, ça reste un être humain, donc
Oui, bien sûr.
ça doit être, voilà, évidemment qu'il doit y avoir des. Quand je dis des failles, ça peut être ne serait-ce que l'épuisement d'elle, de son équipe, parce que je suppose que c'est. Enfin, je veux dire, l'exigence gastronomique de cette chef et de son équipe et l'exigence politique et à la fois le fait de faire savoir, parce que évidemment c'est important de faire savoir et elle le fait très bien, donc toute sa communication et tout ça, ben, je trouve qu'elle fait ça vraiment avec brio et elle permet de faire connaître tous les combats actuels liés à tout ce dont on a parlé là depuis tout à l'heure sur la revalorisation des du travail des femmes historique et en plus elle est très cultivée et elle se renseigne beaucoup sur l'histoire de tout ça et sur les mœurs et sur enfin je veux dire sur l'histoire des mœurs, sur l'histoire des chefs chefs donc enfin
Oui.
voilà, moi je trouve que ça s'applaudit et en plus on a une double raison de l'applaudir, c'est qu'elle vient d'avoir sa première étoile. Et en moins médiatique, il y a énormément d'initiatives plus locales. Moi, je connais surtout celle à Paris, mais par exemple, je trouve que le collectif auquel on a participé toutes les deux, c'était vraiment génial, quoi, tout le travail qu'elles ont fait. Voilà, et puis tout ce qu'il y a derrière, hein, tout ce qu'elles organisent toute l'année, toute la semaine, je trouve que c'est vraiment, enfin voilà, leur collectif est vraiment super. La librairie Les Grandes Largeurs qui est associée à ce collectif, bah voilà, ce travail de la collective, je trouve ça génial, quoi, la façon dont elles m'ont accueilli, moi, est forcément significative de leur façon de voir le monde et de voir les choses, et c'était hyper beau, quoi, comment elles se sont à la fois, elles ont cherché à personnaliser un événement par rapport à mon livre Mangeuse, et voilà, à créer un atelier d'échange, de partage, à la fois de partage d'histoire, où on s'est toutes raconté nos histoires tout en cuisinant. Et puis après, il y avait cette rencontre dans la librairie des Grandes Largeurs, qui est aussi une librairie très engagée dans les sciences sociales et sciences humaines et dans le féminisme et les luttes sociales. Voilà, donc tout ça était vraiment très fort. Et dans les initiatives locales, voilà, je participe aujourd'hui, moi, à pas mal de... Enfin, à pas mal je suis invitée pour mon livre par des collectifs que je trouve impressionnants aussi, hein, par le travail qu'ils et elles font et leur engagement politique. Là, je pense aussi à l'épicerie La Cale, qui est à Paris, qui a lancé un festival féministe génial auquel j'ai eu la chance d'être invitée là, à l'inauguration la semaine dernière. À Dijon, il y a là ce week-end la fin du mois de l'égalité avec des événements justement, notamment autour de l'alimentation, avec une chercheuse qui s'appelle Clémentine Hugol-Gentiale, qui travaille les pratiques alimentaires d'un point de vue social, sémiotique. Enfin, c'est vraiment, elle est passionnante. Et en fait, voilà, tout ça, je trouve que les initiatives locales et nationales commencent à être agissantes et réjouissantes.
Oui, c'est vrai que on dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup d'initiatives. Comme elles sont plus locales, on entend peut-être moins parler quand on n'est pas dans un périmètre géographique assez proche, mais ça n'empêche que le fait que toutes ces initiatives existent, ça veut quand même dire qu'il y a une envie de repenser la place des femmes dans ce grand sujet aux multiples facettes qu'est l'alimentation. Et donc ouais, je trouve ça vraiment super. Ça me met un petit peu de baume au cœur, ces petites initiatives. Mais en tout cas, merci beaucoup
Bah, merci à
d'être
toi, c'était
venue.
super.
Merci
C'était
à...
vraiment super.
Et on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai particulièrement aimé le tourner parce que j'ai aussi appris beaucoup de choses sur un sujet qui est pourtant en plus si quotidien. Alors, j'espère que vous aussi, vous avez fait le plein de petites anecdotes et de petites réflexions pour nourrir vos pensées sur le sujet. Avant de clôturer cet épisode, j'aimerais revenir rapidement sur la discussion que nous avons eue vers la fin avec Lorraine sur tout ce qui a trait à la grossophobie et j'aimerais apporter quelques précisions à tête reposée. Alors, je pense que c'est très bien de vouloir ouvrir un dialogue sur ce sujet, et notamment avec des personnes qui sont peut-être moins averties sur la grossophobie, qui auraient envie d'en savoir plus, et qui seraient capables d'écouter ce qu'on a à dire sur le sujet. Toutefois, et je tiens vraiment à le souligner, la pédagogie, ce n'est pas un devoir. Tout simplement parce que la grossophobie, c'est pas juste quand quelqu'un dit devant nous qu'elle ou il a peur de grossir. C'est pas juste quand quelqu'un fait une blague devant nous sur notre physique. La grossophobie, c'est avant tout l'inaccessibilité d'une partie de l'espace public. Il y a cette phrase que plus on grossit et plus le monde rétrécit parce qu'on a moins accès à un certain nombre de lieux. On ne peut pas forcément s'asseoir, on ne peut pas forcément circuler librement dans l'espace public. La grossophobie, c'est aussi de mauvaises prises en charge par la profession médicale qui peuvent amener dans le pire des cas jusqu'à la mort. Et la grossophobie, c'est aussi des agressions quotidiennes qui vont de la blague, qui peut sembler un peu innocente, à carrément de la violence physique. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, et de rappeler qu'il y a une énorme différence entre se sentir gros et être gros, et la différence, elle réside dans les discriminations réelles que vivent les personnes grosses, dans les discriminations effectives, le fait que c'est plus difficile d'avoir un emploi, que c'est quasiment impossible d'avoir un emploi dans des structures qui accueillent du public. Ça peut être aussi le fait de ne pas être diagnostiqué à temps d'une maladie parce que les médecins s'entêtent à prescrire de la perte de poids au lieu d'aller faire des analyses pour savoir ce qui effectivement ne va pas bien. C'est aussi des violences médicales, parce qu'il y a aussi cette idée reçue que c'est plus difficile à manipuler un corps gros, que en plus les personnes grosses sentent moins les choses, et donc du coup on peut y aller de façon un peu plus violente et qu'elles vont rien sentir. Et la liste est extrêmement longue, donc j'entends tout à fait, et ça je le sais, que c'est possible de se sentir gros, mais je pense que c'est important aussi d'avoir une notion de réalité, qui est que on peut se sentir gros sans l'être, et que les vécus des personnes qui se sentent grosses et qui ne le sont pas, versus les vécus des personnes qui sont effectivement grosses, ne sont pas du tout comparables. Et quand on est à table, en famille ou avec des collègues, et que quelqu'un, et même souvent plusieurs personnes, exprime avec conviction qu'il faut absolument qu'elle perde du poids parce que là ça va pas du tout, ou qu'elle manifeste tout simplement le fait qu'elle serait prête à tout et littéralement tout, encore une fois c'est très très grave, je veux dire il y a des gens qui se mettent en danger juste pour être sûr de ne jamais être grosse, bah dans ce cas là on ne peut pas dire que c'est indépendant d'un système qui discrimine et qui s'acharne sur les personnes grosses à chaque niveau. Et c'est d'ailleurs ce même système qui crée le postulat que les personnes grosses doivent avoir honte de leur corps, et que c'est pour ça que socialement c'est acceptable de parler de ça haut et fort, de dire haut et fort qu'on n'a pas envie de ressembler à une personne grosse, parce qu'on part du principe de vraiment ce postulat de base qu'en tous les cas la personne grosse elle doit pas trop s'aimer. Donc tout ça pour dire que, voilà, je pense que je pourrais parler de ce sujet très longtemps, mais grosso modo ce que je voulais dire dans ce petit rajout, c'est que pour les personnes qui pourraient percevoir cette séquence comme une injonction à expliquer les choses gentiment et avec pédagogie, je tiens à bien préciser que, encore une fois, ce n'est pas un devoir, et qu'on a le droit d'être blessé dans ce genre de situation, qu'on a le droit de le vivre mal, même des fois d'être énervé. C'est jamais direct contre les personnes, au final, une personne va pouvoir nous agacer par rapport à ses remarques, mais notre vraie colère, elle est contre ce système grossophobe, parce que ces remarques-là qu'on a dans notre entourage sont des espèces de prolongements de cette société-là, de cette organisation-là, et ça, je pense que les gens le savent en général, mais c'est juste que voilà, ça arrive dans la discussion et que forcément on se sent blessé, forcément on se sent attaqué, je pense que c'est tout à fait normal. Et du coup, maintenant que le sujet en fait du poids est sur la table, on peut prendre la décision, comme on l'a vu avec Lorraine, bah, d'aborder le sujet, enfin de le laisser sur la table, cette fois-ci consciemment, et d'en discuter avec la personne, avec pédagogie, avec empathie, avec sensibilité. Mais on peut aussi décider que le sujet a été assez longtemps sur la table et que ça nous a un peu blessé de l'entendre, parce que souvent on n'a pas choisi qu'il allait être sur la table, juste il arrive. Et des fois c'est pas un jour où on a l'énergie d'avoir ces discussions-là. On peut aussi décider qu'on n'a pas envie que le sujet reste plus longtemps sur la table et juste passer à autre chose et ne pas réagir sur ces questions-là. C'est tout à fait ok. Et voilà, je vous encourage à bien sûr vous écouter avant tout et vous protéger, parce que c'est le plus important. Pour en savoir plus sur cette thématique qui est très importante, je vous invite fortement à suivre le podcast et à écouter le podcast qui s'appelle Mon Gros Podcast, dans lequel Lisa aborde à peu près tous les sujets que vous pouvez imaginer en lien avec la grossophobie. Elle prend le temps de tout bien expliquer, elle a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes sur plein de sujets, son podcast il est extrêmement riche, et je vous conseille fortement de l'écouter sans modération. Donc Mon Gros Podcast, je vous conseille d'aller checker ça, et de toute façon je remettrai toutes les références qu'on a l'une et l'autre citées dans la description de l'épisode, comme ça vous pourrez les retrouver directement et un peu plus facilement. Sur ces derniers mots, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, de nous avoir accompagnés dans cette discussion sur un sujet qui est passionnant et pour lequel il y a toujours, toujours, toujours des choses à apprendre, même si c'est un sujet extrêmement quotidien. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast sur Chimère. Prenez bien soin de vous. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à en parler autour de toi aux personnes qui auraient besoin d'entendre ces mots. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut !